Nous prenons la parole dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Alors, est-ce qu'on peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Romains chapitre 15, le verset premier nous dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 14. La Bible dit: nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dans le chapitre 15 du livre de Romains, la Bible nous dit de supporter les faibles. Et lorsque nous lisons les chapitres précédents, on nous fait comprendre qu'il y a des discussions au sujet du manger et du boire. Qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Et la Bible, dans ces passages, nous demande d'avoir une attitude qui ne va pas blesser les plus faibles. Que celui qui est fort, que celui qui est en position de force, eh bien, supporte celui qui est en position de faiblesse. Dans le passage de Thessaloniciens, on nous demande d'avertir ceux qui sont dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus, de supporter les faibles et d'user de patience envers tous. Bien aimé, nous savons que lorsque on nous demande de faire preuve de patience, c'est parce que la situation peut nous exposer à la colère. La situation peut nous exposer au manque de patience, justement, à l'irritation. Donc c'est une situation qui peut être difficile à gérer et qui peut nous amener, comme on le dit en français, eh bien, à sortir de nos gonds. Et la Bible nous demande de faire preuve de patience. De patience envers qui? Eh bien, envers ceux qui peuvent nous irriter, envers ceux qui peuvent nous énerver, envers ceux qui manifestent un certain comportement de faiblesse. Vous savez, bien aimé, que lorsque une personne cherche à résoudre ses problèmes en donnant des coups, en faisant preuve de violence, c'est une faiblesse. C'est un comportement qui montre qu'il n'a pas pu gérer les choses d'une manière passive, gérer les choses d'une manière calme. Alors, il utilise la violence. Et la violence, bien que dans le monde, peut être interprétée comme preuve de force dans certains cas, eh bien, en réalité, pour tout homme intelligent, c'est la démonstration tout simplement de la faiblesse. C'est la démonstration des limites de la personne. Mais la Bible nous demande, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Alors la question c'est qui est fort? La question c'est qui est faible? Est-ce que nous sommes dans la position de l'homme fort ou bien est-ce que nous sommes dans la position de l'homme faible? Mais la réalité que nous connaissons tous, c'est que nous pouvons tantôt être dans la situation du fort et tantôt être dans la position du faible. Nous pouvons être forts par notre taille. Nous pouvons être forts par nos possessions, selon le monde qui voit l'homme fort comme celui qui maîtrise la situation. L'homme fort, celui qui est au-dessus des autres, celui qui a des hommes à son service. Celui qui marche avec des gardes du corps, l'homme fort, celui qui détient le pouvoir, qui a la capacité et le pouvoir de décider aujourd'hui, même sur la vie d'autrui dans certains pays. L'homme fort, celui qui dirige le pays au doigt et à l'œil. L'homme fort, celui qui dirige en fonction de son argent, qui a la capacité de changer les événements, qui a la capacité d'acheter, qui a la capacité de corrompre. Ce sont ceux-là qu'on appelle les hommes forts. Nous lisons un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous voyons, bien aimés, une réalité. Il y a un homme riche qui menait un bon train de vie, qui était joyeux. Par ses moyens, il pouvait s'offrir tout ce que sa chair désirait. Il était riche, il était fort, donc selon le monde, parce qu'il était son propre garant, il était son propre chef, il ne dépendait de personne. Il pouvait résoudre certainement ses problèmes avec son argent. Il pouvait corrompre avec son argent. Il pouvait satisfaire sa chair avec son argent. Et c'est là ce que le monde nous apprend. Pour être un grand de ce monde, il faut être reconnu par les autres hommes. Il faut être vu à la télévision. Il faut être considéré. Il faut être acclamé. C'est ça être fort selon le monde. Être capable de résoudre des situations, même quelquefois en employant la force physique. Il y a des personnes bien-aimées qui n'ont aucun rapport, à première vue peut-être, avec la police. Le monsieur est peut-être, je ne sais pas, dentiste, médecin ou ce que vous voulez. Mais dans le village, là où il est, la position qu'il a au milieu de la société peut même lui permettre quelquefois de soudoyer les autorités de la ville pour arriver à ses fins. Nous voyons, bien-aimés, particulièrement où c'est très visible, quoique ça se fait partout, mais où c'est visible en Afrique, bien-aimés, il suffit que tu sois quelqu'un qui ait des moyens, tu as un problème avec une autre personne, tu payes les gendarmes, bien-aimés, et l'affaire est réglée parce que tu as les moyens pour résoudre ces problèmes. Tu es considéré comme homme fort, et bien que tu n'as aucun lien, tu n'as aucune position dans la gendarmerie, mais simplement par les moyens financiers, tu peux corrompre et arranger tes problèmes, parce que tu es considéré comme homme fort. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il y avait un autre homme qui était pauvre, qui lui était à la porte de celui qui est riche. Il n'avait rien à manger, il désirait même se rassasier de quelques miettes. Non seulement pauvre, mais encore blessé dans sa chair. Celui qui est faible, c'est celui qui est déconsidéré. Celui qui est faible, c'est celui que l'on peut écraser facilement, tel que nous le voyons dans le monde bien-aimé. Ceux qui sont considérés comme faibles aujourd'hui, aux yeux de la société, eh bien, ce sont ceux qui touchent le RMI. Ils sont considérés comme faibles parce qu'ils sont pauvres. Ils peuvent élever la voix, bien-aimé, on ne va pas les entendre. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ceux qui sont forts, il suffit qu'ils aillent porter plainte pour un délit qu'ils auraient subi, bien-aimés. Vous allez voir comment le problème va être réglé rapidement. Mais le monsieur tout le monde qui habite dans le dernier des quartiers, bien-aimés, qui va porter plainte pour la même raison, eh bien, on verra, bien-aimés, que le temps passera et son problème sera toujours, le dossier sera toujours dans le tiroir. Nous avons vu, bien-aimés, lorsque le scooter du fils d'un homme de l'État, bien-aimé, a été volé, tous les moyens qui ont été mis pour retrouver rapidement. Mais il y a des gens qui continuent à marcher à pied, alors qu'on ne leur a pas volé un scooter, mais des voitures, bien-aimés. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas considérés des hommes forts. Ils sont des faibles parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont faibles parce qu'ils ne sont pas reconnus par les autres. Mais il y a une réalité, bien-aimée. La Bible nous dit que le pauvre mourut. Mais la Bible nous dit aussi que le fort aussi mourut. La finalité est la même. Pour le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme entre celui qui est fort selon ce monde et celui qui est faible. La finalité pour l'un comme l'autre sera la même. Il y a même un verset qui dit que un chien vivant vaut mieux qu'un homme, un homme mort, bien-aimé. Un chien en vie vaut plus qu'un homme qui est mort dans le tombeau, prêt à aller en enfer. Que les forts supportent les faibles. Et nous le voyons, bien-aimé, qu'il y a des hommes, tels que le monde fonctionne, avec diverses fondations, avec diverses associations pour subvenir aux besoins des pauvres. C'est là où nous voyons la création des associations qui permettent que certains puissent avoir le minimum pour manger, que d'autres puissent avoir le minimum pour se laver, pour laver leurs vêtements, des structures ouvertes par des gens qui ont des moyens pour subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Et la présence de ces associations qui veulent quelquefois manifester que l'homme est bon, qui veulent quelquefois manifester que l'homme aime son prochain, bien-aimé, ça peut être le cas à un certain niveau, mais la présence de toutes ces associations est bien la réalité qu'il y a un déséquilibre sur la terre. Parce que si l'équilibre était, toutes ces associations n'existeraient pas. Toutes ces actions des hommes, toutes ces fondations n'existeraient pas. Mais si elles existent, c'est parce que l'homme a conscience que le monde n'est pas équilibré. Le monde ne va pas comme il devrait aller. Et chacun essaye de mettre, je dirais, sa pierre à l'édifice pour essayer de rétablir l'équilibre. Mais nous voyons, bien aimés, que des années après des années, gouvernement sur gouvernement, il y a toujours des forts et il y a toujours des pauvres. Nous voyons même certaines lois qui sont orientées à favoriser ceux qui sont riches. On nous parle de bouclier fiscal, de toutes sortes de choses, bien aimés, où les amis, bien aimés, de ceux qui gouvernent, eh bien, sont toujours favorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont placés dans la catégorie des hommes forts. Et le pauvre bien-aimé, eh bien, ne va faire que ramasser les miettes, ne va faire quelquefois que subir. Nous voyons comment des pays fonctionnent aujourd'hui pour maintenir le pouvoir, bien-aimé. Lorsqu'on maintient le pouvoir, on ne fait pas subir aux autres riches. Lorsqu'on veut maintenir un certain esclavage, on va toujours enfoncer davantage le pauvre. Et le pauvre s'enfonce à partir de l'arrangement qu'il y a entre les personnes fortes. Le monde dit que qui se ressemble, s'assemble. Et bien aimé, nous voyons aujourd'hui même comment les couples dans le business se forment, bien aimé. En général, c'est entre eux-mêmes parce qu'ils fréquentent les mêmes endroits où le pauvre n'a pas sa place, où le faible n'a pas à y entrer. Ce sont des clubs de rencontres, ce sont des organisations où on accepte ceux qui nous ressemblent. Donc dès l'instant où tu es fort, eh bien, on t'associera aux forts. Mais lorsque tu es faible, on t'associera aussi aux faibles. Mais on ne te mélangera pas. Le monde fonctionne comme ça. Pour être considéré comme fort, il faut être vu aux yeux de tous. Il faut avoir les moyens qui vont avec. Mais lorsque tu n'as rien du tout, lorsque tu es classé dans la classe moyenne, bien-aimé, c'est là où on entend des expressions la France d'en haut et la France d'en bas. Donc c'est bien révélateur, bien aimé, qu'il y a un problème, qu'il y a une division entre des hommes de la même race, qu'il y a une division entre des hommes qui sont censés être égaux. Mais la réalité n'est pas ainsi, bien aimé. La réalité n'est pas ainsi. La réalité, c'est qu'il y a bien deux catégories, ceux qu'on considère comme forts et ceux qu'on considère comme faibles. Mais la Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu, que l'un et l'autre ont fini dans le tombeau. Un jour, le Seigneur fera la différence entre ceux qui étaient vraiment forts et ceux qui ne l'étaient pas. La faiblesse et la force, selon le monde, ne reflètent pas celle que Dieu voit. Nous lisons un autre passage dans Romains chapitre 14. Romains 14, à partir du verset 1er, la Bible dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Au verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Accueillez celui qui est faible dans la foi. La faiblesse, bien aimée, dans le monde spirituel est souvent manifestée par le manque de connaissances. Et cette faiblesse liée au manque de connaissances, bien aimée, certains vont l'utiliser pour assujettir les autres, pour en faire des esclaves. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, dans le monde spirituel, lorsque je parle du monde spirituel, je ne fais pas simplement référence à l'Église. Je fais référence à toutes les organisations, à tous les moyens qui sont utilisés par les hommes en faisant appel au monde spirituel. Celui qui est dans la position de la connaissance se comportera comme le chef. C'est pourquoi nous voyons des aberrations, même dans les églises dites chrétiennes, où lorsque le conducteur paraît comme celui qui a le plus de connaissances, va affaiblir les autres pour continuer à les dominer. C'est pourquoi nous voyons, bien-aimés, que certains chefs d'État religieux, que certaines religions, bien-aimés, considèrent les pratiquants comme des esclaves parce qu'ils sont censés détenir la connaissance. Il y a une religion où on dit que l'interprétation de la parole de Dieu ne dépend que de leur autorité. Donc tous ceux qui y viennent, tous ceux qui adhèrent, ne peuvent pas comprendre la parole si cette autorité-là ne leur explique pas. Et en maintenant cette position, ils gardent la position de fort et maintiennent les autres dans la position de faiblesse. La Bible nous dit que nous devons accepter celui qui est faible dans la foi. Lorsque nous sommes en position de force, sur le plan spirituel, ce n'est pas pour enfoncer les autres, mais c'est pour les aider à avancer, c'est pour les aider à évoluer. Le fort, selon Dieu, bien-aimé, selon le monde spirituel, pardon, c'est celui qui a le plus de connaissances, celui qui peut diriger l'autre, celui qui peut orienter l'autre. Le monde spirituel voit les choses ainsi. C'est pourquoi, bien-aimé, même dans ceux qui pratiquent la magie, dans ce monde-là, il y a des forts, il y a des grades, bien-aimés. Ceux qui adhèrent à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, à toutes ces organisations-là, bien-aimés, il y a des grades dans lesquels il y a des postes. En fonction de la connaissance, en fonction de certaines étapes, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, on va mettre la personne en haut de l'échelle, en fonction de la connaissance qu'il a. Donc le monde spirituel fonctionne comme ça. Et ceux qui n'ont pas de connaissance, ceux qui sont considérés comme les petits, comme les faibles de ce monde, bien-aimés, ils sont considérés comme des esclaves. On a vu des personnes avoir peur d'abandonner la sorcellerie parce qu'ils disent que non, si j'arrête, on va me taper la nuit. Si j'arrête, on va me menacer. Parce qu'ils sont dans une position de faiblesse dans leur monde spirituel. Parce qu'ils ont moins d'expérience, parce qu'ils ont moins de connaissances. Et ils sont considérés comme faibles. Et tous ceux qui sont forts utilise cette connaissance-là pour assujettir. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a condamné les pharisiens. Il leur a dit, mais vous-même, vous n'entrez pas dans le royaume et vous enlevez la clé à ceux qui veulent y entrer. Vous vous êtes assis sur la chair de Moïse et vous obligez les autres à pratiquer. Ils ont gardé cette connaissance, ils ont enlevé la clé de la connaissance, de manière à ce que ceux qui n'ont pas accès aux Écritures, bien-aimés, restent dans une position d'esclave. Et ceux qui la détiennent, eh bien, continuent à assujettir, continuent à profiter, continuent à dépouiller. Bien-aimés, nous avons vu comment autrefois il était interdit dans le catholicisme d'avoir la parole de Dieu. C'était interdit de lire la Bible. La Bible était réservée à une certaine hiérarchie, simplement pour ne pas que les pratiquants connaissent la vérité. Et en les privant de vérité, bien-aimés, ils ne connaissaient pas leurs droits dans le Seigneur. En les privant de vérité, ils ne pouvaient pas s'exprimer. En les privant de vérité, ils ne pouvaient jamais grandir spirituellement. Mais nous voyons que c'est à partir de là que le mouvement protestant est aussi né. Lorsque certaines personnes ont eu accès à la Bible, ils ont découvert que ce qui était enseigné était faux, que ce qui était enseigné était fait simplement pour s'enrichir au-delà des faibles. Ce qui était fait cette doctrine était fondée sur le pouvoir, était fondée sur des fausses paroles, tout simplement pour maintenir ce peuple-là dans l'esclavage, bien-aimé, pour rester en position de fort. le monde spirituel en fonction de la connaissance. Il est écrit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien entendu, ce passage ne s'arrête pas là, parce que le Seigneur condamne ceux qui n'ont pas la connaissance parce qu'il la refuse. Et il dit, mais parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Mais nous voyons bien aimé que le manque de connaissance peut amener les gens à périr. J'ai eu un problème dernièrement pour un vol de chèque. Alors j'arrive à la banque, on me dit, monsieur vous êtes à découvert, ce n'est pas possible. On me dit, si, vous avez fait un chèque de temps, voilà le montant. Je dis, je n'ai jamais fait ce chèque-là. Alors on me donne le numéro du chèque. Je rentre à la maison, je vérifie dans mon chéquier, j'avais mon chéquier, mais quelques chèques de la fin avaient disparu. Alors je retourne à la banque, on me dit, mais monsieur, il faut rembourser la somme. Alors je dirais, ne comprenant pas, moi je rembourse la somme. Alors comme il y a d'autres histoires qui sont arrivées suite à ce vol, je vais consulter un avocat. Alors j'explique à l'avocat, voilà ce qui s'est passé, on m'a volé des chèques et voilà ce qu'on a fait. L'avocate me dit, est-ce que sur le chèque, c'était votre signature? Je dis non. Elle m'a dit, retournez sur le champ à la banque et demandez-leur de vous rembourser votre argent tout de suite. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à encaisser un chèque sans vérifier que la signature soit conforme. Alors bien aimé, je retourne à la banque, je n'ai jamais été aussi bien reçu par la conseillère. « Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur. » J'ai dit, « Oui, je reviens de voir l'avocat à la maison du droit du citoyen. On m'a dit que vous n'avez pas encaissé le chèque. Bien aimé, 2 jours ne sont pas passés qu'on m'a remboursé mon argent rapidement. Alors que lorsque j'avais fait le courrier à l'assurance de la banque, ils m'ont renvoyé une réponse négative en disant, « Nous ne pouvons pas rembourser cet argent-là. » Mais dès que j'ai pris conscience de mon droit, bien aimé, la situation a été réglée rapidement. Donc, le monde spirituel fonctionne comme ça. Tant qu'on ne connaît pas ses droits, tant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas notre domaine, notre champ d'action, bien aimé, on va être amené comme des esclaves. Et beaucoup aujourd'hui de citoyens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et quelquefois, certains ne s'intéressent même pas à leurs droits. Ils restent en position de faiblesse pour dépendre d'un système et ne veulent pas être en position de force pour être actifs. Mais ils préfèrent être passifs et subir quelquefois. Et certains même quelquefois se complaignent dans cette situation-là, en position de faiblesse pour profiter, je dirais, des systèmes bien-aimés qui vont les maintenir. Mais c'est un cercle vicieux et tout ça est un schéma très très compliqué. Il y a beaucoup d'aide dans notre pays comme la France. Je vous l'ai déjà témoigné, bien-aimé, j'ai travaillé dans une association qui soutient justement ceux qui sont en position de faiblesse sur le plan financier, sur le plan social. Et certains qui profitent de cette aide-là, bien-aimés, ne veulent plus en sortir. Parce qu'ils se contentent du peu de nourriture qu'on leur donne chaque jour. Ils se contentent de profiter des machines à laver, ils économisent leur électricité. Ils se contentent, bien-aimés, du système social. Ce qui a été fait pour les aider, bien-aimés, certains sont contents. Et il y a quelquefois, bien-aimés, même dans le domaine spirituel, où les chefs religieux, les chefs des assemblées vont faire en sorte que les brebis dépendent indéfiniment d'eux. Ils vont faire en sorte de rester dans cette position en devenant indispensable, en faisant croire que si tu dois évoluer, il faut obligatoirement que le pasteur prie pour toi. En te disant que si tu dois évoluer, il faut absolument que c'est cet homme qui te bénit. Il se rend indispensable devant le peuple afin de le maintenir dans une position de faiblesse. Et là, lui peut continuer à rester fort. Mais la Bible nous demande d'accueillir celui qui est faible, non pas pour l'assujettir, non pas pour en faire un esclave, mais pour l'aider à avancer, pour l'aider à évoluer. La Bible nous dit dans le passage de Romains que soit que nous vivions, que soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que celui qui est faible doit être faible pour Dieu. Que celui qui est fort doit être fort pour Dieu. Et non pas pour lui-même, bien-aimé, en vivant comme un dictateur. Nous lisons un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 12. « Non, excusez-moi, nous allons d'abord lire Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Le verset 14 nous dit, Ecclésiaste 7, 14, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Le bonheur comme le malheur existe par la volonté de Dieu. Et Dieu a fait l'un comme l'autre, bien-aimé, afin de nous amener à réfléchir, dans un cas comme dans l'autre, que nous puissions discerner, que nous puissions nous humilier et comprendre, bien-aimé, que nous ne maîtrisons pas les choses. Alors, nous avons vu, bien-aimé, que tantôt nous pouvons être en situation de force, tantôt nous pouvons être en situation de faiblesse. Il y a un passage de la Bible qui nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 13, que il n'y a, bien-aimé, aucune tentation que Dieu peut permettre qui soit au-delà de notre force. Donc, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. Donc, tout ce que Dieu permet, il nous en donne aussi les moyens de nous en sortir. Mais la Bible dit aussi que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Personne ne peut s'enorgueillir aujourd'hui de maîtriser la situation. Combien même il est persuadé que ce qu'il vit est permis par Dieu, mais qu'il ne se dise pas, puisque c'est permis par Dieu, ça va être facile, j'attends tout simplement et Dieu fera. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Celui qui croit être fort, bien-aimé, prenne garde de ne point devenir faible et de ne pas supporter la faiblesse. Le monde nous montre aujourd'hui qu'il y a eu des hommes forts, très forts, bien-aimés, mais qui ont fini, je dirais, encore plus bas que le faible qu'ils méprisaient. Il y a certains qui étaient forts par leur force physique, qui dominaient avec une main de fer. Mais les événements changent. Dieu dit, il a créé le bonheur comme le malheur. Lorsqu'on est dans la position de force, tout va bien. Lorsqu'on est dans la position de force, tout semble nous sourire. Mais viendra un temps, le tsunami va venir, bien-aimé, et on comprendra que finalement toute la force était fondée sur quelque chose de futile. Il y avait des gens très riches, bien-aimés. La crise financière, nous avons vu aux États-Unis. Certains ont même été obligés de vendre leur maison. Certains, même leur maison, ont été ravis parce qu'ils n'avaient plus de quoi rembourser. On a vu des banques fermer. Pourtant, ils étaient forts. Mais les événements de la vie ont manifesté qu'en réalité, cette force n'était rien du tout. C'était une force selon le monde. Mais la volonté de Dieu est passée par là, bien-aimé, et a manifesté que cette force, en réalité, n'était rien du tout. C'est pourquoi ceux qui se fondent sur leur force, un jour, ils seront trahis. Nous avons vu des présidents venir au pouvoir et aujourd'hui être traînés en justice. Parce que lorsqu'ils étaient forts, ils étaient tout permis. Lorsqu'ils étaient forts, ils faisaient tout ce qui leur plaisait. Mais bien-aimé, la situation a changé un jour. Et ils étaient amenés maintenant, aujourd'hui, à rendre des comptes. Quand ils étaient forts, ils n'avaient aucun compte à rendre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais les événements ont changé. Et ils ont été amenés à rendre des comptes devant les hommes. Il y a quelquefois même des personnes qui étaient sous leur autorité. Mais ce sont aujourd'hui ces personnes qui les traînent en justice. On a vu, bien-aimé, des présidents pleurer. On a vu des présidents fuir leur propre pays où ils ont dominé. Parce qu'ils étaient forts. Mais cette force est passée où? Lorsque les événements ont changé. La Bible nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réfléchis aussi. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui viendra après lui, afin que l'homme ne maîtrise rien. Aujourd'hui, tu es bien. Sois bien pour Dieu. Si tu veux être bien pour toi, les événements un jour changeront. Bien-aimé, et là, ça sera difficile. Mais celui qui est dans la position de force pour Dieu, combien même demain il sera dans la position de faiblesse, ça ne lui posera aucun problème. Parce qu'il n'avait jamais été fort pour lui. Il avait été fort pour Dieu. Mais lorsque nous sommes forts pour nous et que cette force nous quitte un jour, bien-aimé, comme je le dis souvent, c'est la dépression nerveuse et quelquefois le suicide. Nous avons vu des personnes en position de force et se retrouver dos au mur. Ne jamais accepter de vouloir être en position de faiblesse. Ne jamais vouloir que les gens les regardent comme faibles. Ils ont préféré sauter la vie. Ils ont préféré se suicider que de vivre en tant qu'opposition de faible. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est instable. Les événements de la vie, les intempéries, bien aimés, nous le montrent. Nous voyons combien de personnes ont fait des projets en fonction de la météo. Le jour J arrive, bien aimé, la météo a changé. Le soleil qui devait avoir n'est plus, c'est la pluie. Et tous les projets à l'eau. Parce que les événements ont changé. Lorsqu'on se projette, bien aimé, sur ce que nous sommes, alors les choses changeront toujours. On a vu des personnes en position de faiblesse profiter du système social, profiter de l'exonération des impôts. Mais lorsque la situation a changé, qu'il a fallu se trouver en position où maintenant il fallait payer les impôts, bien aimé, beaucoup se rebellent. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées à la rue. Parce qu'ils ont estimé que non, mais désormais, comme il a un travail, pourquoi on lui reprendrait? Et certains même qui ont un travail, qui ont de quoi payer un loyer, bien aimé, préfèrent être dans la rue et profiter pleinement de leur argent. En position de faiblesse. Et lorsque les choses changent, bien aimé, ça ne va plus. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons accepter ce que Dieu permet dans notre vie. Certains étaient en position de faiblesse financièrement. Mais le jour où Dieu les a bénis, bien aimés, qui sont devenus forts, la tête aussi a tourné. Tout a changé, bien aimés, et ils sont sortis totalement de la volonté de Dieu. Et en devenant forts, ils ont fait des bêtises. Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de gérer ce changement d'événement, ce changement de situation. Que ça soit dans un état ou comme dans l'autre, bien aimé, là où Dieu nous emmène, Dieu nous donnera la sagesse, Dieu nous donnera les moyens de pouvoir gérer telle situation ou autre situation. Pour autant, bien aimé, que nous acceptons de vivre pour Dieu. Que nous acceptions d'être riches pour Dieu, que nous acceptions d'être forts pour Dieu et que nous acceptions d'être faibles pour Dieu. Romains chapitre 14 nous dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Celui qui mange, mange pour Dieu et il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour Dieu aussi qui ne mange pas. Que celui qui est fort ne méprise pas le pauvre. S'il est fort, c'est par la grâce de Dieu. Qu'il ne force pas du pauvre l'esclave, mais qu'il ait conscience qu'étant esclave, il est esclave aussi pour Dieu. Et que celui qui est faible ne méprise pas le pauvre, qui ne méprise pas le riche, le fort, en se disant, toi tu es fort, alors reste dans ton coin. Nous les pauvres, on va rester dans notre coin. Celui qui est fort pour Dieu. Que le faible n'envie pas le fort. Bien-aimé, s'il est fort, c'est parce que Dieu l'a voulu. Selon son plan à lui, nous ne devons pas regarder aux uns et aux autres, bien-aimés, mais nous devons accepter la position dans laquelle Dieu nous a placés, ayant cette assurance que dans tous les cas, Dieu est bon. Nous n'avons pas tout compris, nous ne comprenons pas tout, mais nous pouvons comprendre au moins Dieu qui est bon, puisqu'il a manifesté en donnant Jésus-Christ à la croix. Alors même si je ne comprends pas pourquoi Dieu me met dans une situation de faiblesse financièrement, dans une situation de faiblesse matériellement, dans une situation de faiblesse en me plaçant sous des autorités spirituelles. Je sais au moins une chose, que ça je peux maîtriser, c'est qu'il est bon et qu'il a donné Jésus-Christ pour moi. Alors je préfère me contenter de ce que je maîtrise, au lieu de me faire mal à la tête pour comprendre ce qui est dur. Contentons-nous, bien-aimés, de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Contentons-nous de la position dans laquelle Dieu nous place, que ça soit fort ou bien que ça soit en position de faiblesse, que ça soit l'un ou pour l'autre, que dans tous les cas nous vivons pour Dieu. 2 Corinthiens 12, chapitre 7. Tout peut changer, bien-aimé. Et lorsque l'on refuse ce changement, ça nous amène bien des tourments, ça nous emmène bien dans le manque de paix. Nous pouvons aujourd'hui être autorité bien-aimée et demain être sous l'autorité d'une autre personne. Mais si nous voulons toujours être dans la position de celui qui domine, dans la position de celui qui dirige les débats, bien-aimés, nous serons bien surpris. Nous serons bien déçus. Nous voyons bien-aimés comme le corps est constitué. On peut se dire aujourd'hui, oui, mais que c'est le cerveau qui dirige toute chose. Bien-aimé, mais on a vu que lorsque le corps entier se rebelle et n'obéit plus, nous voyons, bien-aimé, comment les choses fonctionnent. Lorsque le cerveau est censé tout contrôler, mais qu'à un moment donné, le cerveau ne contrôle plus la main, nous voyons, bien-aimé, comment des gestes quelquefois peuvent être malheureux et combien de personnes sont malheureux lorsqu'ils ne maîtrisent pas certains de leurs membres. Lorsqu'on est quelquefois obligé de les attacher avec des camisoles parce qu'ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Lorsque, bien-aimé, le corps n'accepte plus de fonctionner comme Dieu l'a créé, alors un jour ça va dégénérer. Donc lorsque nous n'acceptons pas de fonctionner dans la situation, dans les événements dans lesquels Dieu nous place, un jour, bien-aimé, ça va aussi craquer. Nous devons accepter ce que Dieu permet. Nous devons accepter les changements que Dieu permet, puisque c'est lui qui maîtrise toutes choses. Mais accepter ces changements passera par la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Si réellement nous lui faisons confiance, même si nous sommes déstabilisés sur le moment, bien-aimés, nous accepterons la situation et nous continuerons à être heureux, soit en position de force, soit en position de faiblesse. Et que ça soit dans un cas comme de l'autre, nous marcherons aussi comme le Seigneur le veut. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, c'est l'apôtre Paul qui parle, par rapport aux révélations qu'il a eues, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, bien-aimé, le côté fort, le côté faible selon Dieu. Le monde a sa manière de fonctionner, mais la manière du monde de fonctionner, celle avec laquelle nous avons marché, bien-aimé, pendant des années, et qui aujourd'hui nous avons encore du mal à nous détacher, en voulant nous affirmer, en voulant paraître aux yeux des autres, en voulant compter aux yeux des autres, en voulant avoir une part dans la vie des autres. La Bible nous dit que c'est alors lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Bien-aimés, quelle contradiction, selon peut-être l'éducation que nous avons eue, quelle contradiction par rapport aux enseignements que nous avons reçus du monde, qui nous demande d'évoluer, qui nous demande d'être fort. Un monde de requins où le fort va toujours chercher à enfoncer l'autre pour garder sa position, pour garder son titre. La Bible nous dit alors que c'est lorsque nous sommes faibles que alors nous sommes forts. Alors pour Dieu, la faiblesse est égale à fort. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui avait mis une écharde. Le Seigneur avait mis dans sa vie quelque chose de désagréable, quelque chose avec laquelle il était difficile de vivre, quelque chose avec laquelle il n'était pas à l'aise. Mais il explique que c'était pour une raison, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Bien-aimé, il y a des personnes qui se comportent comme si Dieu s'était trompé en permettant qu'ils soient en situation de faiblesse. Seigneur, mais moi je pense que comme ça, ça aurait été mieux. Seigneur, le jour où tu me béniras, je te servirai. Comme si c'était impossible de servir Dieu dans la faiblesse. Comme si c'était impossible de servir Dieu dans la pauvreté. Seigneur, je vais d'abord arranger mes problèmes. Quand j'aurai résolu mes problèmes, je viendrai. Comme si, bien-aimé, avec les soucis du monde, c'est impossible de servir Dieu. Nous sommes tous dans le monde, bien-aimé. Et nous voyons à l'exemple de Pierre, de Paul, de tous ces apôtres. Ils étaient dans la persécution. Ils étaient dans des soucis, bien-aimé. Mais ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Si les soucis de ce monde devaient empêcher pour servir Dieu, bien-aimé, alors c'est que nous ne sommes plus enfants de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, est-ce à cause de la persécution? Est-ce à cause de la nudité? Est-ce à cause des tribulations qu'il va s'éloigner de Dieu? Il dit, mais non, moi j'ai l'assurance que ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni la mort, ni la vie ne pourront m'éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même dans les faiblesses, l'apôtre Paul a compris qu'il devait se réjouir, car c'est alors qu'il était en position de faiblesse que la puissance de Dieu pouvait se manifester. La position de faiblesse, c'est la position où nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne sommes rien. La position de faiblesse, c'est là où nous reconnaissons que, Seigneur, si tu n'agis pas dans cette situation, alors c'est foutu. L'apôtre Pierre et Jean, étant devant cet homme paralytique qui faisait la manche, qui demandait l'aumône, Pierre et Jean leur ont dit, mais regarde-nous. Certainement qu'ils n'étaient pas vêtus comme les riches de ce monde. Certainement qu'ils n'avaient pas l'apparence pieuse des pharisiens. Ils étaient là, comme monsieur tout le monde. Ils lui ont dit, on n'a rien à te donner. Selon ce monde, je n'ai rien à te donner. Je suis faible comme toi. Tu m'en dis, mais moi aussi, je n'ai rien à te donner. Selon le monde, je n'ai rien. Mais j'ai quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors qu'ils étaient devant une incapacité, humainement parlant, là où la science ne pouvait rien faire, là où les médecins ne pouvaient rien faire, c'est là où la puissance de Dieu s'est manifestée. Nous voulons être forts selon ce monde, à vouloir résoudre nos problèmes par l'argent, à vouloir résoudre nos problèmes par la force. Mais il y a une puissance, bien-aimée, qui est au-dessus de l'argent. Il y a une puissance qui est au-dessus de l'intelligence humaine. C'est celle qui vient de Dieu. Et les apôtres étaient dans cette configuration. Ils ont dit, nous n'avons rien. Nous sommes en position de faiblesse, en position de pauvre. Mais dans le Seigneur, nous sommes riches. Dans le Seigneur, nous sommes pauvres. Et à cause de cela, lève-toi et marche. En position de faiblesse selon ce monde, mais en position de force selon Dieu, bien-aimé. C'est là où le Seigneur nous appelle. Alors si nous comprenons, bien-aimé, que étant faible selon Dieu est égal à être fort, alors c'est que finalement dans le Seigneur, il n'y a plus de faibles, mais qu'il y a des forts en Jésus-Christ. Alors si nous sommes forts en Jésus-Christ, pourquoi voulons-nous manifester la force de ce monde? Si nous sommes forts en Jésus, pourquoi voulons-nous résoudre les problèmes selon ce monde? Si nous sommes forts en Jésus, pourquoi voulons-nous nous agiter? Pourquoi nous rebeller dans les épreuves? Pourquoi nous rebeller dans les moments difficiles, puisque Dieu dit que c'est là que nous sommes forts? Voulons-nous être à l'image des pharisiens, dont le Seigneur a dit qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Bien qu'ils avaient reconnu que Jésus-Christ était le Messie, la Bible dit que beaucoup parmi les pharisiens ont cru, mais ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Est-ce que nous préférons utiliser les moyens des hommes ou comprendre que les moyens de Dieu sont beaucoup plus efficaces et sur le moment présent et surtout dans le temps? Être fort selon Dieu bien-aimé, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la force de ce monde va nous abandonner un jour. Il y a eu des hommes forts, Lorsque j'étais jeune, bien-aimé, j'ai grandi dans un quartier difficile dans les Yvelines. Il y avait ce qu'on appelait les grands du quartier, que tout le monde respectait, bien-aimé. Tout le monde respectait sans exception. C'est-à-dire que ces grands-là avaient la même autorité que ton père ou que ton frère. Donc, bien que vous n'étiez pas de la même famille, mais s'il te voit faire une bêtise ou dans un endroit, bien-aimé, il va te frapper sans problème. C'était des gens qu'on respectait, des gens de qui on avait peur. Bien-aimé, le temps a passé. Ceux qui faisaient la terreur, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, sont devenus presque des esclaves de beaucoup plus jeunes qu'eux. Parce que l'alcool est passé par là. Parce que la drogue est passée par là. Et aujourd'hui, ils sont comme des mendiants devant ces jeunes qui aujourd'hui gèrent les quartiers bien-aimés. Les événements ont changé. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Que celui qui se croit arrivé prenne garde que les événements changent. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui a amassé des trésors dans son grenier. Et à un moment de sa vie, il s'est dit, c'est bon, la retraite est assurée. Mon âme, réjouis-toi maintenant, c'est fini. Tout est accompli selon lui. Il a tout fait. Il peut bien vivre. La Bible dit qu'une voix se fit entendre et lui dit, insensé, ta vie te sera reprise aujourd'hui. Beaucoup bien-aimés ont fondé leur force en fonction de leurs études, ont fondé leur force en fonction de leur corps. Mannequin top modèle. Bien-aimés, les événements de la vie sont passés par là. Et tout est tombé à l'eau. La maladie est passée par là. Et tout est tombé à l'eau. La déception amoureuse est passée par là. Et tout est tombé à l'eau. Parce qu'ils pensaient maîtriser. Bien-aimés, la vie, ce n'est pas un rêve. Vous voyez, quelquefois, il y a des rêves qu'on fait, on n'a même pas envie de se réveiller. Soit il y a eu un bruit, ou bien on a allumé la lumière, on se réveille. Quelquefois, on a envie de se rendormir pour finir le rêve, parce que c'était bon. Et même des fois, il y a des rêves, quand on est à moitié endormi, c'est comme si on maîtrise les choses. On domine dans le rêve, bien-aimé. Mais la vie, ce n'est pas un rêve. On ne maîtrise pas tous les paramètres. La vie, bien-aimé, c'est une réalité dans laquelle nous devons faire un choix chaque jour. Nous ne sommes pas dans une fiction, bien-aimé, avec un scénario où lorsque ça ne convient pas, on barre et on recommence. Bien-aimé, hier, c'était hier. Personne ne peut revenir à hier pour changer. C'est terminé, bien-aimé. Ce n'est pas comme dans un film où on peut faire un épisode et puis demain un autre épisode en changeant le premier épisode, en faisant passer que c'était un rêve, bien-aimé. Nous sommes dans la réalité. Et dans cette réalité-là, nous devons tenir compte de celui qui l'a créé, qui nous donne les moyens de pouvoir vivre dans cette réalité-là. En étant fort en lui. C'est donc lorsque je suis faible, alors que je suis fort. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, au chapitre 1, que Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles de ce monde, afin de confondre les sages, afin de confondre les forts. Bien-aimés, ceux qui sont en position de force, la Bible dit, ils apprennent mais ne parviennent jamais à la connaissance. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux forts. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux faibles. C'est lorsque nous sommes comme des enfants, alors que le royaume des cieux est révélé. Mais lorsque nous sommes forts, bien-aimés, puisque nous sommes forts, Dieu nous regarde. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient forts, il est venu pour ceux qui sont faibles. Or, la Bible nous dit que ce sont ces faibles-là que Dieu choisit pour faire avancer son œuvre. Les pharisiens se sont vus étonnés de voir des gens comme des pierres, les gens. Des pécheurs sans éducation qui parlent du royaume de Dieu. Des hommes sans éducation, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais ça, ce n'est pas le fils du charpentier. Bien-aimés, les choses changent. Celui que tu considères comme petit aujourd'hui, un jour pourra être ton patron. Si tu te comportais comme un dictateur, bien-aimés, un jour les choses vont changer. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Je n'ai jamais vu en réalité, mais dans les films, bien aimé, et certainement que ça s'est passé en vrai, des personnes qui étaient ouvrières, qui ont travaillé dur. Un jour, peut-être, ils gagnent au loto, bien aimé, ils rachètent l'entreprise. C'est lui qui devient le chef. Et là, maintenant, on voit qui est qui, bien aimé. Les choses peuvent changer très vite. Celui qu'on regarde comme petit, comme les pharisiens, regardez les apôtres comme des simples pécheurs. Ce sont eux qui sont venus avec la véritable autorité. Ce sont eux qui ont parlé du véritable royaume de Dieu. Ceux qui étaient considérés comme petits, Dieu les a utilisés afin de confondre les forts. La situation change très vite, bien-aimés. Nous voyons comment, dans le livre des Juges, il y eut un homme appelé de Dieu pour délivrer Israël, pour combattre les Philistins. Samson, bien-aimé, qui avait une force physique extraordinaire. Dieu avait donné des recommandations. Dieu lui avait donné une certaine force par le fait qu'il soit mis à part, par le fait qu'il soit loin de Dieu. La Bible nous dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il était très fort, bien-aimé. Mais lorsqu'on est fort pour Dieu, Dieu nous accompagne. Dieu nous soutient. Dieu est avec nous. Lorsque la force que nous avons, nous la mettons au service de Dieu, alors le Seigneur la soutient aussi. Bien-aimé, Samson a failli à cause d'une femme. Et une femme étrangère. On sait que Dieu ne voulait pas que son peuple aille avec des femmes étrangères, de peur qu'ils ne se soumettent et qu'ils aillent adorer leur Dieu. Samson a aimé une femme, il a délivré son secret. On lui a coupé les cheveux, bien-aimés, et à ce moment-là, tout avait changé. Les Philistins qui avaient peur de lui, dès qu'on le voyait, on le craignait. Il était en position de force. Mais celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Samson pensait que même si on lui coupait les cheveux, sa force allait rester bien-aimée. Il n'a plus voulu être fort comme Dieu le voulait, avec les cheveux longs. Il pensait qu'il serait fort avec sa propre conviction. Bien-aimé, on lui a crevé les yeux. Et c'est lui maintenant qui était en position de faiblesse. Tout ce qu'il avait fait subir aux Philistins, eh bien, les Philistins se sont vengés. Mais nous voyons par la suite, bien-aimé, que Dieu l'a vengé de ses ennemis. Il a prié. Il s'est humilié devant Dieu. Dieu lui a donné la force, juste pour un instant. Et tous les ennemis ont péri, en faisant tomber toutes les tours, tous les piliers. Tout s'est écroulé, bien-aimé. Certainement, lorsqu'ils ont attrapé Samson, ils étaient contents. Ils étaient en train de fêter. Ils ont pris Samson au milieu de la salle comme un clown. Et les gens riaient. Ils étaient en position de force. Ils pensaient que les choses étaient acquises. Bien-aimé, les événements ont encore changé. Samson a retrouvé la force pour un instant. Et tous ceux qui étaient en position de force sont morts. Bien-aimé, Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Nous devons accepter d'être faibles, comme le Seigneur le veut. Nous lisons Actes chapitre 9. Verset 1er, la Bible dit : Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. L'apôtre Paul, pharisien motivé, reconnu parmi le peuple, connaissant la parole, se rend à Damas pour aller chercher à emprisonner les chrétiens. Il participait lorsqu'on persécutait les chrétiens. Il se rend à Damas avec l'autorité des souverains sacrificateurs pour arrêter tous ceux qui se disaient de Jésus-Christ. Et sur le chemin, bien-aimé, il croise quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui. Il était en position de force lorsqu'il allait avec l'armée, avec les lettres, avec le droit, avec le pouvoir d'arrêter les chrétiens. Il allait avec assurance. Mais voici que sur la route, il croise quelqu'un qui est plus fort que lui. Tout bascule, bien-aimé. Si notre force vient du pouvoir que les hommes nous donnent, bien-aimé, prenons garde qu'un jour, tout bascule. L'homme, aujourd'hui, peut te donner un pouvoir. Mais lorsque demain, tu ne le satisfais pas, bien-aimé, il t'enlève le pouvoir et donne à quelqu'un d'autre, facilement. S'il sent que tu deviens un danger pour lui, il t'enlève le pouvoir que lui-même t'a donné. Et au moment où il te donnait, il faisait des éloges. J'ai confiance en lui. C'est une personne sage, intelligente, sur qui on peut se reposer. C'était les plus belles éloges. Mais bien aimé, le jour où il sent que ça ne va plus, toi qui étais le bon, toi qui étais le plus beau, la plus belle, bien aimé, on t'enlève ce titre-là pour le donner à quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul a rencontré quelqu'un qui était plus Seigneur que lui. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Non seulement il ne voyait plus. Le Seigneur lui dit, « Va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, s'il y a une chose qui est difficile pour l'homme, c'est qu'on lui dit ce qu'il doit faire. L'homme a du mal à accepter. « Fais ceci, fais cela. » Surtout par un autre homme. Surtout si cette autorité-là est plus jeune que lui, si le patron est plus jeune que lui, c'est dur à accepter. Le Seigneur dit, va dans la ville. Ceux que tu cherches à persécuter, que tu considères comme rien, eux, c'est eux qui vont te dire ce que tu dois faire maintenant. Il était aveugle, bien-aimé, il n'avait plus le choix. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié, bien-aimé. Parce qu'il s'est humilié, alors le Seigneur lui a restauré la vue. Il était en position de faiblesse devant les hommes. Parce que le fait qu'il adhère à la nouvelle doctrine bien-aimée l'a emmené à être considéré comme un traître. Il était en position de faiblesse parmi les hommes, parmi les pharisiens. Mais il a accepté d'être fort dans le Seigneur. Et c'est cet exemple-là, bien-aimé, que nous devons suivre. Et l'apôtre témoigne, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Il a réalisé dans les derniers jours que oui, le choix qu'il avait fait était le véritable choix. Être faible dans ce monde, mais être fort en Jésus. C'est parce qu'il a accepté d'être faible selon ce monde, fort en Jésus bien-aimé, qu'il a pu aller jusqu'au bout. Nous lisons un autre passage, Luc chapitre 22. Nous connaissons aussi, bien-aimés, l'histoire du chef de l'armée de la Syrie, Naaman. C'était le chef, bien-aimé, mais la Bible nous dit qu'il avait attrapé la lèpre. Un homme bon aux yeux du peuple. Lui, le fort, à la tête d'une grande armée. qui avait même emmené en captivité des Israélites. Bien-aimé, il s'est retrouvé en force. Le peuple qu'il avait méprisé. Mais c'était ce peuple-là que Dieu avait choisi pour lui, pour le guérir de la lèpre. Le Seigneur a dit à Jésus, « Je ferai de tes ennemis ton marchepied. » Les mêmes qui ont crucifié, les mêmes qui ont injurié, ce sont ces mêmes-là, bien-aimés, qui avanceront devant le Seigneur et qui chanteront gloire à l'agneau. Les mêmes qui n'ont pas accepté le Seigneur pendant un temps, bien-aimés. Mais le jour où ils s'humilient, ils reconnaissent que véritablement, celui-ci assurément était fils de Dieu. Dieu change les temps et les circonstances. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Bien-aimé, quelle humiliation! Le Dieu vivant, la parole faite chair, en position de faiblesse dans la chair, en position de faiblesse humainement. Lui qui était dans toute sa gloire, qui a accepté pour un temps de quitter sa gloire pour se faire serviteur des hommes. Il vient sur la terre en agonie, en train de prier, parce que l'heure arrivait. La Bible dit que c'est un ange qui vient le fortifier. Quelle humiliation, bien-aimé! Lui qui donne des ordres aux anges. La Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Lui qui est à l'origine de toute chose. Voici une des créatures de sa création va venir le fortifier. Bien-aimé, le Seigneur a accepté. Non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté se fasse. Alors, un ange vint et le fortifia. Alors, un ange vient. Bien-aimé, pourquoi alors? Parce qu'il avait accepté que non pas sa volonté, mais que la volonté de Dieu se fasse. Il a été fortifié au moment où il a accepté d'être faible pour Dieu. Il a été fortifié parce qu'il a accepté d'être faible pour Dieu. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà l'exemple bien-aimé du roi des rois. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le maître s'est humilié. Il a accepté d'être faible selon ce monde. La Bible dit qu'il était égal à Dieu. Il avait les mêmes droits que Dieu sur toute chair. Mais il a accepté de s'humilier. Il a accepté d'être faible selon la loi de ce monde pour être fort selon la loi de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons aujourd'hui avoir toutes sortes de capacités, que ce soit physique, que ce soit financier. Bien-aimés, mais nous devons renoncer à être fort en fonction de notre richesse. Nous devons renoncer à être fort en fonction de notre force physique, en fonction de l'importance que les hommes nous donnent. Et nous devons accepter à être fort selon le royaume de Dieu. Jésus-Christ était fort. Réellement fort, bien-aimé, puisqu'il était Dieu. Mais étant sur la terre, il a accepté de se soumettre à la loi de Dieu. Il a accepté de se mettre au niveau des hommes pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui. Et la Bible nous dit, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a accepté d'être faible, selon le plan de Dieu, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est alors lorsque je suis faible que je suis fort. Parce qu'il a été faible, il a été élevé. Bien-aimé, quelle contradiction par rapport à la loi de ce monde. Accepter d'être faible alors pour être fort. Bien-aimé, on nous dira c'est impossible. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible, bien-aimé. Avec Dieu, on peut être faible et être fort. Ça, c'est possible, bien-aimé. Ça, c'est possible. Nous lisons Ecclésiaste, chapitre 12. Bien-aimés, si les événements ont changé, si même le Seigneur a accepté, bien-aimés, tout cela, alors qui sommes-nous pour nous rebeller et vouloir choisir comment servir Dieu et vouloir choisir où servir Dieu? Nous avons lu, bien-aimés, dans Ecclésiaste 7, que Dieu a créé le bonheur et le malheur de la même manière, afin que l'homme ne sache pas ce qui viendra après lui. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Nous avons compris, bien-aimés, que tantôt nous pouvons être en situation de fort, mais tantôt nous pouvons être en situation de faible. Aujourd'hui, bien-aimés, je peux prêcher la parole, et demain je peux être assis écoutant la parole qu'un autre frère va prêcher. Et je me soumets à cette autorité parce que j'estime que c'est la parole de Dieu. On ne se soumet pas à un homme, bien-aimé. On se soumet à la parole de Dieu. En se soumettant aux autorités comme Dieu le veut, ce n'est pas à l'homme dans la chair qu'on se soumet. C'est à la volonté de Dieu que nous nous soumettons. Alors, bien-aimé, qui est fort, qui est faible? Celui qui est en position de force, bien-aimé, c'est peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui, nous puissions être en paix, que nous puissions manifester une certaine maturité dans le Seigneur. Mais bien-aimé, même celui aujourd'hui qui est ton patron, même aujourd'hui celui qui est ton pasteur, celui qui est en autorité, qui peut être comme dans une situation de force, bien-aimé, un autre jour c'est possible que toi tu sois en situation de force et que lui soit en position de faiblesse. Lorsque la Bible nous dit que les forts supporte les faibles, bien-aimé, ça ne veut pas dire que c'est un schéma qui est défini, où les forts seront toujours forts et les faibles faibles. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Chacun, à notre tour, nous serons en position de force ou de faiblesse. Aujourd'hui, ton autorité peut être, bien-aimé, dans une détresse, peut-être, qu'il a perdu un membre de sa famille. Alors toi, tu peux être à ce moment-là en situation de fort. Non pas dans l'orgueil que c'est toi qui vas devenir son pasteur bien-aimé. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire en position de force dans l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Tu es en position de force parce que l'événement qui l'a troublé ne lui permet pas peut-être d'assumer un rôle. Alors puisque toi, à ce moment-là, tu es en position de force, tu peux le remplacer partiellement. Que les forts supportent les faibles bien-aimés. Les choses peuvent varier. Donc on ne doit pas rester éternellement dans une position de faible. Il y a des moments où le Seigneur nous mettra aussi en position de force. La position de force, bien-aimé, c'est en fonction de l'autorité que peut donner à un moment. L'Église peut être dans une orientation, peut être erronée par rapport à la volonté de Dieu. Mais toi, qui n'as peut-être pas de responsabilité, tu viens faire part à l'autorité. Voilà la vision que j'ai reçue. Mais en donnant cette vision, tu la donnes avec l'autorité que Dieu donne à sa parole, bien-aimé. Et à ce moment-là, tu es comme en position de force. Et tu dois soutenir. Lorsque le pasteur, lorsque les dirigeants des assemblées sont quelquefois peut-être submergés par le travail, ils se retrouvent comme dans une position de faiblesse où la charge paraît être lourde, bien-aimé. Mais tu peux être en position de force dans la prière, en le soutenant dans la prière, bien-aimé. Tantôt nous sommes dans une situation, tantôt dans une autre. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, la difficulté, c'est, mais Seigneur, comment faire lorsque nous sommes en position de force selon le monde? Quelquefois, on a même honte de cette position. Il y a des chrétiens, quelquefois mieux des chrétiens, qui ont honte d'avoir les moyens, qui ont honte de la richesse que Dieu leur a donnée. Il y a d'autres qui sont en position de faiblesse, de pauvreté financièrement, et ils en ont honte, bien-aimés. Soit que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, bien-aimés, que l'un ou pour l'autre, ça doit être pour Dieu. Et celui qui vit pour Dieu, bien-aimé, n'aura pas honte de la situation dans laquelle Dieu l'a placé. Voilà ce que nous dit la fin du discours de Ecclésiaste 12, au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Soit riche, soit pauvre, soit faible, soit fort, soit juif, soit grec, soit français, soit allemand, soit chinois. Voilà ce que doit faire tout homme, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. Dans la faiblesse comme dans la force. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que nous puissions simplement pratiquer sa parole. Dieu ne s'est pas trompé. La situation dans laquelle tu es, c'est une bonne situation pour connaître Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation, mais je sais, puisque c'est Dieu qui maîtrise tout, je suis sûr de ne pas me tromper, bien-aimés, lorsque je dis ça. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, bien-aimés. Et si nous sommes dans telle situation, Dieu ne s'est pas trompé. Alors c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre. C'est à nous de l'accepter et de continuer à le craindre et de vivre pour lui. Notre salut se trouvera dans la situation dans laquelle Dieu nous a placés. Si Dieu nous a bénis financièrement, gloire à Dieu, c'est qu'il veut se révéler d'une manière dans cette situation. Si Dieu n'a pas permis qu'on soit bénis financièrement, gloire à Dieu, c'est dans cette situation qu'il veut se révéler à nous. Dieu nous connaît, bien-aimés. Ne cherchons pas à fuir la situation de Dieu en se disant certainement que si j'étais riche, peut-être que j'aimerais plus Dieu. Bien-aimés, c'est faux. Certainement, Seigneur, tu m'as donné beaucoup de moyens. À cause de cela, les seuls amis que j'ai, c'est à cause des moyens que j'ai. Je n'ai pas de véritables amis, ils m'aiment que pour mon argent. Bien-aimés, c'est faux. Dieu peut donner des véritables amis et même plus, il peut donner des frères qui ne tiendront pas compte de ta richesse, mais qui t'aimeront simplement parce que tu es aussi un enfant de Dieu. Ne fuyons pas, bien-aimés, la situation dans laquelle Dieu nous place. Comprenons, bien-aimés, que nous sommes appelés à supporter les faibles, mais la Bible dit autre part, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Alors si la Bible nous demande de nous supporter les uns les autres, bien-aimés, c'est que nous pouvons tous alors nous trouver dans une situation où nous pouvons être faibles pour certains, mais être forts pour d'autres. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, qu'il y a des brebis qui dépendent, non pas dans une manière négative, de leur pasteur, et bibliquement ce qui est normal. Comprenons ce que je dis, je ne dis pas dépendre à la manière des hommes. Dépendre dans le schéma de Dieu, tel que le Seigneur fonctionne, de leur berger, et ce qui est tout à fait normal par rapport à la parole de Dieu. Mais cette personne qui dépend de son pasteur, en même temps ses enfants dépendent de lui. Bien-aimés, supportons-nous les uns les autres. Tu peux être faible aujourd'hui et faire fort demain. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Que les forts supportent les faibles. Ne nous considérons pas comme des dictateurs bien-aimés lorsque une personne manifeste une certaine faiblesse. Ah, mais lui aussi, vraiment, ce n'est pas possible. Depuis longtemps, ah, mais lui aussi, ce n'est pas possible. Toujours dans le bureau du pasteur, mais lui aussi, ce n'est pas possible. Bien-aimés, le Seigneur dit que lui, il regarde au cœur. Nous, nous regardons à l'apparence. Il y a des personnes qui voient des gens passer du temps dans le bureau du pasteur, ils pensent que c'est toujours à cause des problèmes. Bien-aimé, tu ne sais pas, tu n'es pas là. Supportons le faible. Si nous avons trouvé que le frère, que la sœur manifeste un manque de foi, au lieu de murmurer, de dire, mais lui, vraiment, il n'a jamais la foi. Pendant l'intercession, il ne prie pas. Il fait ceci, il fait cela. Mais bien-aimé, prions pour lui. Prions pour lui. Nous ne connaissons pas aujourd'hui les événements, la situation dans laquelle cette personne se trouve, qui ne lui permet pas de servir le Seigneur convenablement. Au lieu de l'enfoncer davantage, puisque toi tu es fort, prie pour la personne. Ici, on ne donne jamais d'amour. Mais bien aimé, si les gens ne donnent pas l'amour, qui sont faibles pour comprendre ça, mais toi qui es fort, donne l'amour. Alléluia. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel, tu es vivant. Il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur de gloire, semblable et comparable à toi. Seigneur, c'est la vérité que tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi nous voulons ce matin encore nous soumettre à ta volonté. C'est vrai, Seigneur de gloire, que bien souvent lorsque nous avons été en position de force, alors que la Bible dit « Ne refuse pas une chose à une personne si tu es dans la possibilité de lui donner. » Seigneur, c'est vrai que nous nous sommes positionnés quelquefois en dictateur. C'est pourquoi tu as dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Seigneur, aide-nous à être justes. Soit en position de force, comme en position de faiblesse. Seigneur de gloire, que notre partage soit simplement d'accomplir ta volonté. Nous avons l'exemple de Jésus, Seigneur, qui s'est humilié alors qu'il était égal à toi. Nous avons l'exemple de Paul, qui s'est humilié lorsqu'il a rencontré le Seigneur des Seigneurs sur la route de Damas. Il a accepté, Seigneur Dieu de gloire, ils ont accepté d'être faibles selon ce monde, mais d'être forts selon la Bible. Et c'est à cela, Seigneur de gloire, que tu nous appelles. Car en réalité, Seigneur de gloire, les bouleversements de ce monde nous montrent bien, Seigneur de gloire, qu'en réalité, il n'y a aucun homme fort. Nous avons vu l'histoire de cet homme riche et de Lazare. Seigneur de gloire, le pauvre comme le riche, les deux aussi meurent. Finalement, il n'y a pas de fort. Mais la Bible dit que toi, tu es ressuscité et que tu vis au siècle des siècles. Oui, Seigneur de gloire, il n'y a que toi seul qui es fort. La Bible dit d'ailleurs, Seigneur de gloire, qu'on t'appellera Dieu fort. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Nous ne pouvons, Seigneur de gloire, que nous humilier devant toi, reconnaître ta seigneurie, reconnaître, Seigneur de gloire, que tu n'as pas de concurrent, Seigneur de gloire, tu n'as pas de rival. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Aide-nous à nous supporter les uns les autres, Seigneur, avec les éducations différentes que nous avons pu avoir, avec les caractères différents, avec les origines différentes, Seigneur. Aide-nous à nous supporter les uns les autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, c'est toi qui es notre rocher, notre forteresse. Et c'est en toi que nous voulons nous confier. Dans le nom de Jésus. Seigneur, entends nos prières ce matin, car nous savons que c'est toi qui exauces. Et tu dis dans ta parole, Seigneur de gloire, que tu ne refuseras pas, Seigneur de gloire, tout ce que nous te demandons selon ta volonté. Seigneur, ce matin, nous voulons faire le choix d'être fort en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à accepter d'être faible selon ce monde, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire, d'accepter le plan de vie que tu as pour chacun d'entre nous. Car c'est celui-là qui est le meilleur. Et c'est dans celui-là que tu as prévu de nous bénir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur.